ont vu l'adoption dans le sens romain, mais qui est une illustration de ce que Dieu a fait pour nous. Hein. Il a fait de nous ses enfants par choix. Hein. Nous voulons continuer là dans cette même pensée, Romains chapitre 8, et nous allons lire des versets 15 à 27. Romains 8, 15 à 27. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon l'Esprit et selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Alors c'est un passage où peut-être il y a des paroles ici et là qu'on comprend, mais le tout, parce que c'est une pensée, eh bien peut-être c'est pas si évident que cela. Hein, donc ça me fait penser à un film intitulé « My Fair Lady ». C'est un musical américain qui est sorti en 64, mais qui représente le début du XXe siècle. Et dans ce film, il y a Eliza Doolittle, une pauvre fleuriste cockney, donc populaire de Londres. Et alors, il y a un professeur de langue qui passe là, puis il se moque un peu de son accent, de sa manière de parler. Alors, elle lui demande, elle dit, ben alors, enseigne-moi à parler le langage des ladies, hein, de la noblesse. Et il lui lance le défi. Cette fille, elle lui lance le défi. Ce qui est amusant et distrait dans le film, c'est justement cette fille qui essaie d'apprendre. Et elle est frustrée, il y a des revers, il y a toutes sortes de choses. C'est vraiment pas naturel de parler comme la noblesse. Alors qu'elle, elle est très populaire. Et donc, il y a tout cet effort. Mais je pense que c'est une illustration un peu de ce que c'est que quand on vient dans la famille de Dieu. On vient d'un certain contexte, d'un certain monde, et puis on veut passer à un autre monde. Mais entre les deux, ben, y a une souffrance. Il y a une souffrance parce qu'il y a une adaptation à pas seulement du langage, mais à beaucoup de niveaux. Et justement, vous avez peut-être remarqué, hein, quand on a lu les versets 16, verset 15, nous, par l'Esprit nous crions Abba Père, verset 16, l'Esprit lui-même nous rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu, tout ça c'est bien, verset 17, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, et j'aurais voulu avoir un point là. Mais il continue, il dit, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifié. C'est ce mot souffrir qui gêne. Chaque fois qu'on voit le mot souffrir, déjà, on se crispe. Mais c'est pas une question de souffrir pour se rendre meilleur. C'est pas un purgatoire, c'est pas ou ni quelque chose de ce genre. C'est pas le fait que, écoute, ben, il faut que tu, quand même, bon, le Seigneur t'a sauvé, mais bon, il faut que tu souffres un peu quand même, hein, pour. Non, c'est, Dieu ne prend à aucun plaisir à voir souffrir ses enfants. Pas plus que des parents ne prennent plaisir à voir leurs enfants souffrir, surtout gratuitement. Mais là, la semaine dernière, on a parlé de cette adoption et on a dit que c'était juridique, c'était une décision. Donc, tu n'es pas mon enfant. Au moment où tu reçois Jésus-Christ comme ton sauveur, tu nais par l'Esprit dans la famille de Dieu, et à l'instant même, Dieu dit, tu es mon fils, je t'adopte, tu es mon fils, et tu es mon enfant, et voilà, et je suis ton père, et tu peux m'appeler ton père, et même je te donne l'Esprit de Dieu qui va t'aider à m'appeler, et employer le terme intime, hein, que seul un enfant peut utiliser, c'est papa. Abba, Père. Et aussi, c'est comme ça que Dieu, Jésus a appelé son Père aussi, hein, vous vous souvenez, hein, quand il s'est adressé, il a dit Abba, Père. Et donc, nous avons cette possibilité. Mais ce que nous allons voir là, aujourd'hui, et j'ai intitulé l'étude, après l'adoption, l'adaptation. Après l'adoption, ça c'est à un moment précis, après il y a l'adaptation. Et l'adaptation, eh bien là, c'est là où il y a une souffrance. Même des synonymes de adaptation seraient acclimatation, accommodation, accoutumance, intégration, ajustement. Et tous ces mots suggèrent qu'il y a une transformation où on passe d'un naturel passé à un nouveau naturel. On est en train de créer un nouveau naturel. Et c'est ça qui suggère, et donc c'est là la souffrance. Donc c'est cette souffrance de ce passage de l'un à l'autre, et c'est un peu la frustration que nous pouvons vivre en tant que chrétiens, chacun de nous, c'est l'ancien qui veut toujours tirer, comme dans ce film, la fille, si elle ne se concentrait pas, très vite elle repartait dans l'ancien accent. Et il fallait jusqu'à ce que ça devienne naturel. Là, il nous dit que si nous sommes au verset 17, il dit, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, et toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifié avec lui. Nous souffrons avec lui afin d'être glorifié à lui. Donc à la fin de cette souffrance, il y a une glorification, c'est-à-dire que nous serons semblables à lui. Il y a un prix à payer, hein, et nous ne nous plaignons pas, parce que c'est quand même Jésus a payé un prix pour nous avoir aussi, hein, donc n'oublions pas son prix, et le prix que nous payons n'est rien comme ce qu'il a payé. Et alors, c'est exactement cette souffrance, et Paul va développer cela, et parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué dans la lecture, mais trois fois, est-ce qu'on a trouvé le mot « soupir » Il dit que au verset 22, il dit « Nous savons que jusqu'à ce jour, la création entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » Et déjà, l'enfantement, vous savez ce que ça représente, les souffrances. Mais après, il y a vie nouvelle. Hein, donc cette image est là. Il dit la création souffre. Au verset 23, Il nous dit ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, nous avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons à nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Donc l'adoption, d'accord, juridiquement, nous avons un nouveau statut, mais la réalisation de la chose, et alors là, on l'attend. Hein, et c'est une souffrance que d'attendre déjà. Et puis troisièmement, au verset 26, il nous parle dans la prière, dans notre désir de communion avec Dieu, il y a un soupir aussi. Hein, et il nous dit que l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et nous savons ce que c'est qu'un soupir. Hein, c'est pas une expression de joie. Il y a un peu une notion de fatigue, il y a un peu de frustration. Il y a beaucoup de choses dans un soupir. Hein, et parfois les gens ils ont dit j'ai rien à dire mais soupir. Hein, ça en dit beaucoup. Mais c'est le soupir, c'est cette souffrance. Et l'apôtre Paul dit oui, dans cette période d'adaptation, eh bien, c'est un long soupir. Hein. C'est vrai qu'il y a une souffrance, mais c'est en vue d'eux. Hein. Et donc, et vous verrez qu'il parlera aussi d'espérance. Hein. Donc, nous voulons prendre chacun de ces soupirs et puis de développer un petit peu. Mais avant d'aller trop loin dans ce qu'est la souffrance et ce que ça représente, regardez le verset 18, il dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Il dit, écoutez, souffrance d'accord, mais il dit « Mais quand ça sera terminé, ça sera tellement bien que vous aurez vite oublié. » Et nous trouvons, et là il veut nous encourager, il dit même, il parlait déjà à la fin du verset 7, il dit « afin d'être glorifié avec lui hein, », de glorifier, c'était ce que Christ a, hein, quand Christ est ressuscité, il avait ce corps nouveau, glorifié, et il a pu aller dans la gloire. Paul écrit aux Corinthiens, il dit au 2 Corinthiens 4, 17 et 18, il dit « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, et les invisibles éternelles. » Il dit donc que c'est vrai qu'il y a des légères afflictions, il appelle ça légères afflictions, et un peu, quand je pense à ce que les légères afflictions qu'a eu de l'apôtre Paul, je ne voudrais pas les vivre, hein, parce que plus tard, il parle de ces... au chapitre 11, il parle de combien de fois il a été dans des tempêtes, combien de fois il a été battu, combien de fois, et puis il parle de légères afflictions. Par rapport à lui, on n'a pas à se plaindre encore, mais il dit, en fait, c'est pas une question de nous comparer, hein, la souffrance de l'un par rapport à la souffrance de l'autre. Nous avons chacun notre souffrance, nous avons chacun de nous, c'est très personnalisé, et nous ne pouvons pas nous comparer les uns aux autres. Mais l'objectif est le même, c'est cette adaptation à la vie nouvelle. Et donc, après c'est sûr que si je traîne, c'était un peu comme les enfants d'Israël qui sortent de l'Égypte pour habiter en Canaan, c'est un changement de vie. C'est complètement, il faut changer les habitudes, il faut changer la manière de faire la culture, la manière de, plutôt que d'être esclave, c'est d'être propriétaire, il y a un corps. Et il y en a qui ont hésité, qui n'ont pas cru, qui ont douté, et finalement ils ont tourné en rond dans le désert. Hein. Et donc parfois il y a des chrétiens qui sont là, puis c'est pas, ils ne sont pas prêts à payer le prix, ou ils se lassent de toujours faire des progrès, et alors finalement ils perdent de temps, hein. On ne gagne rien à ne rien faire, ou attendre, ou baisser les bras, ou s'arrêter, ou bouder le Seigneur. Ça ne fait pas gagner du temps. C'est pour moi, c'est ce qui est beau dans l'Évangile, c'est que je peux participer à le salut, il me donne gratuitement, je suis sauvé, ça c'est gratuit, mais ensuite la transformation, qu'on appelle aussi par ailleurs la sanctification, ben c'est je peux participer et je vois mon progrès. Hein. Donc, il nous parle donc de cette gloire à venir qui nous sera révélée. Et nous devons lui faire confiance. Hein. Au verset 18, il dit, c'est comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Donc il dit, écoutez, il y a quelque chose. Même s'il y a, un processus qui est douloureux, cette transformation, ce changement, il dit, mais ce qu'on va trouver, ça vaudra bien la peine. Et alors après, donc, c'est justement ce verset 22 hein, qui nous dit que la création entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et c'est vrai, je crois qu'on n'est pas conscient de combien la nature souffre. On devient, dans les temps modernes, on commence à se rendre compte que la nature souffre terriblement et que l'homme fait souffrir la nature. Hein, on n'a pas besoin. Dieu était écologiste bien avant que les hommes le soient. Hein, même là, l'apôtre Paul en prend conscience. Et en fait, Dieu avait créé une nature qui était où il y avait une harmonie totale. Et c'était, nous on appelle ça le paradis, mais bon, c'était ce qu'il y avait de normal, c'était pas extraordinaire, c'était ce qu'il y avait de normal, Dieu a prévu. Mais lorsque Adam et Ève ont péché, et alors est arrivé quelque chose qui a touché le monde, et depuis, la nature même souffre. Le monde végétal souffre parce qu'il y avait une histoire d'arbres dans le jardin. Le monde animal souffre parce qu'il y avait un serpent. Et bien sûr, la nature, la race humaine souffre parce qu'il y avait un homme et une femme. Et même si l'apôtre Paul ici ne nous explique pas tout pour satisfaire notre curiosité, mais c'est qu'il nous dit, mais la nature souffre. Hein, certains animaux ont poussé des crocs, des plantes. Des branches sont devenues des épines, ou des feuilles sont devenues des épines. L'être humain ne se comporte plus comme il le devrait. La mort est arrivée, la méchanceté, toutes sortes de choses sont arrivées. Et tout cela fait souffrir le monde et la nature. Et alors maintenant, on essaie, après avoir fait beaucoup de dégâts, on essaie de vouloir réparer. En tous les cas, on parle de réparer. Parfois, on n'a pas l'impression que c'est sérieux, mais bon, ça, c'est pas ce sujet-là que je traite ce matin. Mais il nous dit au verset 21, quand même, on a cette idée, il dit, verset 20, « Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, donc c'est pas quelque chose que la nature, elle est coupable de rien du tout, elle subit, mais à cause de celui qui l'a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, parce que mourir, la nature n'était pas créée pour mourir, mais pour vivre. Et pourtant, il y a constamment mort partout, même dans le monde végétal et partout. Et il dit au verset 21, avec l'espérance qu'elle sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Quelque part, la nature se rend compte que son avenir est lié à l'avenir de l'être humain. Et donc, la nature, quand elle a vu, elle voit qu'il y a un plan de rédemption pour la race humaine, eh bien, elle espère aussi, parce qu'elle sera soulagée. Et vous avez remarqué qu'il emploie le mot « vanité hein, ». Il dit « est soumise à la vanité ». Le mot « vanité » signifie une chose qui n'est pas vraie, qui n'est pas à la hauteur de notre attente. Hein, c'est pas de vanité, c'est du faux, hein, c'est du top, c'est joli, ça tape à l'œil, mais finalement, il n'y a rien dedans. Hein, donc finalement, il dit « la terre est soumise à ça ». L'être humain, il lui promet beaucoup de choses, mais finalement, il ne fait que l'exploiter pour lui-même. Et même maintenant, même l'agriculture, même tout, hein, on est là pour tirer le maximum, et on n'entretient pas la terre, comme certains l'ont fait pendant un temps. Et on se rend compte qu'on le paye aussi. Mais vous savez que la rédemption des êtres humains permettra la restauration du monde physique, et la terre, la nature soupire après ce jour. Et la restauration se fera, hein. Je ne vais pas rentrer dans les prophéties, hein, mais si vous regardez dans, par exemple, Ésaïe 11, les versets 6 à 9, ou Ésaïe 60, il parle du loup et de l'agneau qui dorment ensemble, il parle du lion qui va brouter de l'herbe, il parle, c'est-à-dire les choses vont revenir comme à l'origine. Et donc la nature attend ce jour, quand il y aura cette restauration. Si vous avez eu affaire avec les témoins de Jéhovah, et beaucoup à leurs manuels et leurs photos dans leurs petits journaux, tout ça, eh bien, beaucoup de leurs images, c'est une belle nature, des gens qui se promènent, et puis des animaux, puis des ceci, ça. Bon, ça, c'est, la Bible en parle, cette époque-là. C'est ce qui se fera durant le millénium, hein, vous pourrez voir ça à la fin de l'Apocalypse, il parle des 1000 ans, le royaume de 1000 ans. Mais Dieu va le faire, et la nature l'attend, et Dieu va restaurer. Et Dieu peut. Hein? Et donc, bien sûr, l'enfant de Dieu vit dans un corps et souffre aussi les effets de cette malédiction qui est sur la race humaine, hein, parce qu'Adam et Ève ont désobéi. Et il soupire aussi, hein, maintenant que nous avons compris ce qui est arrivé dans le jardin d'Éden, et maintenant que nous avons compris ce que Jésus a fait sur la croix, eh bien, nous aussi, nous espérons, hein, ce jour où notre corps sera glorifié. Je sais, d'accord, mon âme est au Seigneur, mais mon corps, il est encore, il fait partie de ce monde. Et il subit et il souffre tout ce que ce monde lui fait subir. En maladie, en souffrance, en traitement, en frustration, tout. En tant que chrétien, nous sommes dans ce monde, on le vit, on le souffre. Ceux qui citent Ésaïe 53, 5 pour dire que Jésus il a souffert pour notre guérison, et qui croient que nous, l'enfant de Dieu, les chrétiens, doivent être guéris. Et donc, il y a des réunions de guérison, et il vous dit, mais vous devez, si vous êtes enfant de Dieu, si vous avez la foi, vous devez être guéri. La Bible ne parle nulle part que les enfants de Dieu doivent toujours être en bonne santé. Il est capable de guérir, il l'a démontré, Jésus sur terre, il l'a démontré, et vous savez ce qui est extraordinaire? Parce qu'une maladie, c'est une chose physique. Hein, un médecin, des scientifiques peuvent étudier une maladie et savent d'où ça vient et comment ça serait, et comment le guérir. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que quand Jésus guérissait, c'était avec une parole. Et qui n'a rien de physique. Hein, et ça, c'est contrairement, c'est carrément, comment dire, c'est une autre médecine. Mais finalement, c'est tout à fait logique que Jésus ait pu dire un mot, parce que ce qui a apporté tout ce malheur dans la terre, c'était une parole, une malédiction de la part de la bouche de Dieu. C'est la bouche de Dieu qui l'a imposée, c'est que la parole de Dieu qui peut la suspendre. C'est ce que Jésus faisait souvent avec les malades, hein, c'est pas. Et puis, où il peut même lever. Par une parole. Vous rappelez les paroles du centenier, Jésus a dit, bon ben je viens pour guérir ton serviteur. Il dit, c'est pas la peine que tu viennes chez moi, je veux pas que tu viennes sous mon toit, dis un mot. Il avait compris. Il a compris que c'est par une parole que la maladie est là, c'est par une parole de celui qui a prononcé la première parole que ça peut être levé. Il dit, dis une parole. Et Jésus a été étonné de sa foi. Finalement, le gars, il a compris un mystère de la parole de Dieu, ce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Dieu peut guérir, il peut suspendre la malédiction pendant un temps, il peut l'atténuer, et il peut nous dire, mais ma grâce te suffit. Et même l'apôtre Paul lui-même souffrait. Donc il y a le côté, cette souffrance physique hein, qui est là, et il nous parle de la nature, et notre corps, c'est la nature aussi, hein, c'est la dimension physique, et on peut souffrir. Et quand on voit toutes les maladies, quand vous lisez les dictionnaires de médecine, vous êtes étonné que vous soyez en bonne santé. Hein. Quand on voit tout ce qui peut exister et tout ce qui circule, on dit c'est beau hein, d'être en santé. Et n'oublions pas de remercier le Dieu, parce que c'est une grâce. Parce que je ne suis pas meilleur que le prochain pour me porter meilleur qu'un autre. Donc il y a ce. Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous savons que nous avons, par cette adoption, nous sommes enfants de Dieu, mais nous savons qu'il y a ce temps où on traverse en attendant ce jour. Et donc physiquement, on le vit, on le souffre, mais pas sans espérance. Hein. C'est différent d'être dans un état où on dit « mais il n'y a aucun remède », ou de dire « il y aura un remède, ça viendra à temps, patiente, le traitement, laisse le traitement agir ». Et donc là, nous avons donc il y a une souffrance, il y a un soupir, la nature, et dans notre corps, c'est la nature. Eh bien, il y a cette souffrance, on soupire, mais après ce jour où la rédemption se fera et nous serons délivrés de cette malédiction qui repose sur tout ce qui est vie, le monde animal, le monde végétal et l'humanité. Ensuite, versets 23 à 25, il nous parle de cette souffrance à un autre niveau. Il dit « ce n'est pas elle seulement, donc la nature seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, donc on a la vie, l'esprit est là, on a ce début de vie, on l'a. » Il dit « nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. » Il dit, il y a quelque chose aussi en nous, dans notre pensée, dans notre, je vais dire, dans notre âme, dans notre psyché, hein, là où nous avons la conscience, là où nous pouvons, nous avons la compréhension, là où c'est dans notre âme, eh bien, il dit, nous souffrons. Hein, parce qu'on est là, et qui n'a pas s'est posé la question, dire mais pourquoi et comment et pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait et puis après, parfois même on va jusqu'à la culpabilité, mais quel péché j'ai fait pour avoir ça vous savez, mais c'est dans notre âme cette souffrance. Et il dit nous souffrons, même si nous avons reçu l'Esprit qui nous donne cette vie nouvelle, mais notre âme est toujours là. Et nous souffrons dans à ce niveau-là. Nous avons cru que Christ est mort sur la croix pour le pardon de nos péchés. Nous avons cru en sa résurrection pour la justification devant Dieu. Hein, Romains chapitre 4, dernier verset. La foi nous a donné accès à cette grâce, hein, c'est par la foi, c'est par la grâce qui nous a sauvés, par le moyen de la foi. C'est la foi qui nous a fait accéder à cette grâce de Dieu. Et maintenant, nous vivons dans cette espérance, un jour, nous recevrons l'adoption, c'est-à-dire nous bénéficierons de ce que ça veut dire d'être enfant de Dieu. Nous bénéficierons pleinement. Et continue à nous dire, hein, là il nous dit, par verset 24, il dit car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Pratiquement, on ne l'a pas encore. On est encore dans ce monde. Et on souffre tout ce que ce monde veut nous donner. Je sais dans mon cœur, je sais dans mon pensée, je sais que Dieu m'a sauvé, je n'ai plus à craindre, je n'ai plus cette crainte. Mais sinon, dans mon état de chaque jour, eh bien, je souffre dans mon âme. Mais j'ai l'espérance. Et l'espérance, c'est basé sur, pas sur un rêve, mais c'est basé sur une promesse. Hein. Et c'est pour ça que, tout en souffrant, eh bien, nous avons cette espérance qui est là, et qui sera là jusqu'au jour où nous aurons obtenu, hein. Comme il dit dans 1 Corinthiens 13, il dit, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. Pourquoi? Parce que c'est ce qui continue. La foi, on n'en a besoin que pour terre. Hein, une fois qu'on sera dans la présence de Dieu, on n'a plus besoin de la foi parce qu'on est là. L'espérance, eh bien, on aura obtenu ce qui a été promis, donc plus besoin d'espérer. Mais l'amour, eh bien, ça continuera. Dieu est amour et l'amour sera éternel. Hein, comme on le disait, on s'appuie sur les promesses de Dieu et c'est en espérance que nous nous réjouissons de ce que nous allons avoir un jour. Et cela nous attend. Mais en attendant, c'est une souffrance. Hein, déjà, vous avez déjà vu des enfants, ils attendent le Noël où ils pourront ouvrir les cadeaux. Et rien qu'attendre à la voir, c'est une souffrance. Hein, vous avez déjà vu les enfants souffrir. Déjà, des fois, quand c'est question d'ouvrir un paquet de bonbons, ils sont là. Hein, c'est une souffrance pour eux. Hein. Parfois, nous, on l'oublie, mais on a fait quand même. Hein, c'est attendre. Attendre, c'est une souffrance pour l'âme veut maintenant, parce que c'est son état normal. Et donc, elle ne peut pas être satisfaite tant qu'elle ne l'a pas obtenue. Et donc, il y a une souffrance dans notre âme. Donc, mais nous allons la voir. Il nous dit, l'apôtre Jean nous dit, dans 1 Jean 3, versets 2 et 3, il nous dit, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance se purifie comme lui-même est pur. » Il dit, on le croit, donc on subit cette adaptation et on se prépare parce qu'on sait que ça vient. Mais cette adaptation est une peine. Pour employer une expression, mais ça vaut la peine. Hein? Et ensuite, versets 26 à 29, c'est souvent un passage qui est pris tout seul, alors qu'il fait partie d'un contexte. Il nous parle de la prière et il dit, même dans la prière, vous trouvez ça difficile. Il y a une difficulté dans la prière. Et donc, l'Esprit nous assiste, mais par des soupirs, encore une fois. Les soupirs, c'est pas agréable. On aurait préféré par des chants, par de la poésie. Ça aurait fait plus joli que par des soupirs. Mais c'est qu'il y a une souffrance, même là. Et là, il est en train de parler de l'homme. Il parle de l'esprit de l'homme. Hein, et c'est un autre domaine de souffrance qu'a. Qu'est-ce que c'est que l'esprit de l'homme? Eh bien, l'esprit de l'homme, laissez-moi vous donner une petite image, c'est la petite fenêtre dans l'âme qui est tournée vers Dieu. C'est la petite fenêtre qui nous permet de passer aux choses célestes et qui nous permet de communiquer avec Dieu. Là, chez l'homme naturel, donc pécheur, eh bien, la fenêtre est fermée. Elle est fermée. Et en fait, la fenêtre, c'est pas nous qui avons la poignée de la fenêtre est de l'autre côté. C'est lui qui a la poignée de la fenêtre. C'est pas nous. L'homme, et quand l'homme pécheur vient et reçoit Jésus-Christ dans son cœur, Dieu ouvre. L'Esprit de Dieu vient, la fenêtre est ouverte et il y a moyen de s'exprimer spirituellement avec Dieu. Hein, donc, celui qui est pécheur, sa porte est fermée. Et quand l'homme est venu, la fenêtre a été fermée, comme la porte de l'arche de Noé, hein, est fermée par Dieu. Ce n'est pas Noé qui l'a fermée, c'est Dieu qui l'a fermée. Et c'est que Dieu qui pouvait l'ouvrir. Parfois, on essaie de passer, l'être humain, dans sa frustration de ne pas pouvoir passer par cette fenêtre qui est créée dans l'être humain, hein, Eh bien, et on essaye par l'âme, on essaye de passer, certains essayent de passer par la nature, et en s'adressant à la nature, eh bien, on espère arriver à Dieu. D'autres essayent de le faire par d'autres moyens, en passant par des saints, en passant par quelqu'un d'autre. On essaye de toutes sortes de manières. Hein. Certains invoquent même les anges. pour essayer de parler à Dieu. On a toutes sortes de rituels mystiques par lesquels on essaye. Même parfois, je crains, je ne dis pas tout le yoga, mais le yoga aussi, parfois, il sert à ça. C'est une manière d'essayer d'ouvrir, de s'ouvrir. Et puis pour, je ne dis pas tout le yoga, mais certains utilisent ça pour, et nous devons faire très attention, parce que c'est une ouverture, on s'ouvre pour essayer d'accéder, mais on ne sait pas ce qui va arriver, hein. Et s'exposer au monde spirituel, ce n'est pas toujours rassurant. Et alors, c'est un peu cette fenêtre fermée, l'expression que j'emploie, cette fenêtre fermée, c'est un peu ce que l'apôtre Paul, auquel il fait référence quand il dit « Nous sommes morts dans nos péchés et nos offenses hein, ». C'est la mort, vous savez, le mot « mort » depuis Genèse chapitre 3, eh bien, c'est le fait de ne plus avoir de communication avec Dieu. C'est ça la mort, c'est pas le fait de plus agiter, de ne pas pouvoir manger, mais c'est de ne pas pouvoir communiquer avec Dieu, directement avec Dieu. Mais comme nous sommes devenus enfants de Dieu, nous recevons l'Esprit de Dieu, la fenêtre s'ouvre et l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et ici il nous dit, et par l'Esprit aussi nous pouvons nous adresser à Dieu. Et la communion est ouverte et donc il y a vie. Mais notre côté c'est que d'accord, alléluia, la fenêtre était ouverte, je peux parler à Dieu. Oui mais je suis encore dans mon corps, je suis encore dans mes anciennes pensées. Et je ne sais pas parler, je ne sais pas comment dire. Et je suis frustré. Et c'est une souffrance. Et peut-être que vous vous êtes trouvé parfois comme ça, là, en train de vous voulez prier à Dieu. Et puis il vous dit, mais je ne sais pas comment dire, quoi dire. Et finalement, j'ai l'impression que j'ai dit n'importe quoi. Et j'espère que je ne l'ai pas fâché. Et vous savez, combien de fois j'ai rencontré des personnes qui ont vécu cela. Il y a une frustration. Et pourtant, c'est pour parler à Dieu. Mais c'est parce que nous venons, nous avons un dialecte, un patois, qui n'est pas le langage du céleste. Nous n'avons pas encore les pensées célestes, nous n'avons pas encore, nous ne connaissons pas bien Dieu. Et on dit, mais vous savez, quand vous connaissez quelqu'un, vous parlez plus facilement que quand vous ne le connaissez pas. Hein? Mais c'est pareil, c'est cette même frustration. Il dit, ça fait partie de cette adaptation qui est là dans, que l'être humain, même enfant de Dieu, il dit, mais bon, je vous ai donné l'Esprit, le Saint-Esprit, qui est là pour vous aider dans cela. Hein, il y a une frustration, mais lui va prendre, il va interpréter, et il va présenter correctement pour moi, ce qui me permet que même maintenant, alors que je suis encore un peu pas mal affecté, touché, éduqué par le monde, puisque par le ciel, eh bien, je peux quand même prier et avoir accès à Dieu, grâce à l'Esprit de Dieu qui est là. Donc l'apôtre Paul dit oui, oui, nous serons héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons, c'est-à-dire il y a cette souffrance qu'il faut traverser, l'adaptation, et plus nous restons sur terre, plus la période elle est longue, hein. Mais le brigand sur la croix, lui, il n'a pas souffert énormément, hein, parce que lui, il a dit aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Hein, donc, ce qui est certain, c'est on y arrivera. Il dit donc que les légères afflictions du temps présent, ben, il dit que ça ne se distrait pas. Hein, c'est vous y allez, y arriver. Par la grâce de Dieu, vous y serez. Et alors, vous avez remarqué qu'ici, il nous dit que l'Esprit nous aide. Hein, il dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Nous aide. Le mot aider, dans le grec, hein, le terme original, il se trouve ici. Et une fois dans les évangiles, et justement dans l'évangile de Luc, c'est le seul autre endroit où ce mot-là est employé, et puis en grec, il est tout long, je ne vais pas essayer de le prononcer, parce que il est long comme les mots allemands. Hein. Mais c'est le terme qu'a employé Marthe qui avait Jésus aidait les disciples et qui s'est fait le projet, je vais leur préparer un bon repas. Et elle s'est donné un grand projet de préparer tous les repas. Et alors, elle est en train de commencer à préparer, et elle se rend compte, oh, je ne vais pas y arriver. Et puis en plus, ma sœur, elle ne fait rien. Elle est là. Alors, elle va voir Jésus et dit, ça ne te dérange pas que ma sœur ne m'aide pas? Et c'est ce mot-là qu'elle emploie. C'est ce mot-là, et c'est ce mot-là que ici, qui a été repris pour ce que le Saint... C'est-à-dire, comprenez la frustration de Marthe. Elle dit, en fait, quand elle dit aider, elle dit, j'ai besoin d'assistance pour faire ce que j'ai projeté de faire. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à faire ce que j'ai envie de faire. Hein, c'est ça le sens. Hein, c'est ça que Marthe dit à Jésus. Dis à Marie de venir m'aider pour que je puisse faire ce que j'ai projeté de faire. Je comprends dans la réponse de Jésus qu'il dit, mais c'est toi qui t'es mis là-dedans, dans cette situation. Tu n'as pas besoin de faire tout ça. Hein. Donc laisse-la là. Elle a choisi la bonne part. Et ça nous arrive, des fois on a des grands projets, on veut, puis après on n'y arrive pas, et après on veut recruter du monde, et puis s'ils ne viennent pas, on est déçu, alors que c'est nous qui avons préparé le projet. Mais là, eh bien c'est un peu la même chose, il nous dit, on est là, on veut faire une belle prière à Dieu, et on l'entame, et puis on ne sait plus où aller. Il dit, le Saint-Esprit est là pour t'aider à réaliser cette prière. Il est là pour t'aider à faire la prière que tu as envie de faire, qui est peut-être plus grande que toi et dont tu es incapable de faire, mais il est là pour t'aider. Et c'est ça le mot. L'Esprit est là pour nous aider, hein, dans le soupir, mais il va nous aider à le faire. Hein. Et c'est tellement merveilleux, cette chose. Et donc, nous avons, bien sûr, il y a cette souffrance physique dans le corps, il y a la souffrance qui est au niveau de notre âme, et puis il y a la souffrance qui est au niveau de même de notre esprit et dans notre communion avec Dieu. Mais il nous dit, il est là et il nous donne. Et puis en même temps, nous savons que c'est en vue de quelque chose de merveilleux que Dieu a préparé pour nous. Et donc, c'est l'esprit que le Seigneur nous a envoyé, qu'il a appelé le paraclète ou le consolateur, celui qui se tient près de nous, il dit, il est là pour nous assister, pour nous accompagner, pour nous permettre, hein, comme il dit, c'est par lequel nous crions Abba Père. Hein, c'est grâce à lui que nous pouvons dire Abba Père. Et lui qui connaît toutes les pensées de Dieu, qui connaît les valeurs de Dieu, il sait comment demander. Nous avons cette aide, hein, et donc il nous aide pour nous qui nous souffrons de cette frustration, de nos limites, hein, nos limites, et on a envie de faire plus, les pensées vont très loin, puis le corps ne suit pas, et il y a une frustration ici, même pour l'enfant de Dieu. Mais il nous dit, mais c'est normal, continue. Parce que nos légères afflictions sont rien comparées à la gloire qui nous est réservée. Et nous devons nous encourager mutuellement et élever nos pensées au-dessus de notre état, qui est vrai. Hein, c'est pas, et la souffrance, elle est réelle. On n'a pas à se culpabiliser pour quoi que ce soit que nous vivons, que nous souffrons. Mais c'est de fait de garder les yeux sur ce que le Seigneur a préparé. Et donc, l'adoption par Dieu est un fait pour tous les enfants de Dieu, mais qui exige une adaptation. Et ce processus d'adaptation, qu'on appellera par ailleurs la sanctification, hein, c'est où il y a petit à petit les choses se transforment, on devient ce que le Seigneur veut, et le projet de Dieu, c'est que nous soyons à l'image de Jésus-Christ. C'est-à-dire que un jour, eh bien, nous aurons les capacités qu'a Jésus. On a du mal à l'imaginer pour l'instant. Et puis, peut-être que si vous pensez à certaines personnes, vous dites, oh, vraiment, j'ai du mal à l'imaginer, mais bon, l'œuvre de Dieu est merveilleuse. Hein? Et soyons confiants. Et donc l'apôtre Paul, là, nous parlant de l'adoption, on dit, ah, c'est merveilleux, on est enfant de Dieu. Il dit, mais bon, quand tu as été adopté, hein, tu as été, tu viens, tu as, on a pris un petit enfant, une adoption, on a pris un enfant d'un pays où il y a de la souffrance, il y a la famine, il y a tout ça. On l'a pris, on l'a amené dans un pays où il y a l'abondance, et on l'a mis dans une belle maison. Et bien, vous savez, aussi beau que ça peut être, le gars, il n'est pas à l'aise, là. Il est plus à l'aise dans le bidonville d'où il est sorti, qu'il naît dans ce beau château. Et il y a une période d'adaptation, parce qu'il y a un comportement. Maintenant, il faut se laver les mains, il faut s'essuyer. Ouais, moi, déjà, moi, ça m'est arrivé, hein, on passe d'un pays à l'autre, on change les coutumes. Il faut faire les choses d'une certaine manière. Hein, il nous dit, ben, c'est pareil pour la vie spirituelle. Il n'y a rien de plus normal. Et on l'accepte quand on va d'un pays à l'autre. On accepte de faire les choses différemment. Les Américains, ils viennent en France. Et puis, pourtant, les gens s'habillent pareil. Et puis, ça se ressemble et tout. Mais finalement, dans la pratique, c'est complètement dit autre chose. Hein. Il est complètement déboussolé. Il y a une adaptation à faire. Combien plus quand il faut passer des choses du monde pécheur aux choses spirituelles de Dieu. Mais le Seigneur dit, mais bon, c'est pas... Ah, je suis avec toi. Hein, et pour revenir à ce film dont j'ai mentionné au début, eh bien alors, il y a tout ce processus que le professeur passe, et difficultés et tout ça. Mais il y a un moment, à 4 heures du matin, tout d'un coup, la fille arrive à parler comme une lady. Il dit, ça y est, on est arrivé. Et puis on le voit, cet homme, à 4 heures du matin, en train de danser tout d'un coup, tellement il est heureux d'avoir réussi. Et vous savez, je crois un jour, on sera dans la gloire et on va danser aussi. On sera heureux. Et les anges du ciel, ils vont dire, waouh, c'est extraordinaire. Ces gens-là, tordus comme ils étaient, ils arrivent à... Mais vous savez, ça, c'est le plan de Dieu. Et ça nous donne beaucoup d'espérance. Comme on disait tout à l'heure, Dieu a promis, et bien ça se fera. Et je peux compter dessus. Que le Seigneur nous aide, et de penser comme ça, et bien ça va changer ma manière de vivre. Il dit, ceux qui ont cette espérance, et bien vivront d'une manière pure. Si on croit vraiment qu'on va aller au ciel un jour, et bien alors on commence à s'acclimater, à s'ajuster, à s'accommoder, à... pour cela, n'est-ce pas? Eh bien, tout cela, ça peut-être ça touche des points différents pour chacun d'entre nous. Hein, on le vit chacun de manière très individuelle. Mais que le prendre quelques minutes... vous pourrez dire à Dieu, dire, ben oui, mais justement, tu m'as fait penser à quelque chose dans ma vie, il faudrait que je travaille là-dessus, qui est plus normal, qui ne devrait pas être normal, ça doit se transformer, et je voudrais que tu m'aides à ce niveau-là. Et dites-le maintenant au Seigneur, puis dire, après vous reviendrez, vous me direz, et vous travaillerez ça toute la semaine, ou les années à venir, hein, mais puis après quoi je prierai.